Notre temps, la musique, c'était de la musique. Maintenant, c'est plus rien que du bouquin. 1, 2, 3.
Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent.
C'était vraiment très intéressant, cette musique.
Vous êtes bien sur le répondeur de l'émission Versions Originales. Toutes nos lignes sont occupées. Nos opérateurs font tout leur possible pour limiter votre attente. Nous vous prions donc de rester aimables et courtois. Profitez-en pour découvrir toute l'histoire qui se cache derrière le Boléro de Ravel, l'une des compositions classiques les plus connues au monde et pas seulement pour être l'un des plus célèbres habillages musicaux de répondeurs. Pour accéder au service des archives et connaître l'histoire de son compositeur Maurice Ravel, tapez 1. Pour accéder au service comptabilité et découvrir que le Boléro c'est avant tout une histoire de gros sous bourrée de rebondissements, tapez 2. Pour accéder au service recyclage et découvrir d'étonnantes reprises du Boléro dans de nombreux styles musicaux, tapez 3. Pour toute autre demande, veuillez patienter les 16 minutes que dure le Boléro de Ravel. Vous avez demandé le service comptabilité, veuillez ne pas quitter.
Si le rythme et la mélodie du Boléro sont incontestablement répétitifs, l'histoire qui jalonne les droits d'auteur de ce monument de la musique classique n'a rien de linéaire et habituel. Cupidité, jalousie, manipulation, procès en tout genre et création de sociétés offshore, bref, tous les ingrédients sont réunis dans ce qui peut s'apparenter à une incroyable saga rocambolesque où les multiples rebondissements ont dû faire se retourner dans sa tombe un paquet de fois ce pauvre Maurice Ravel au point de lui donner le tournis 6 pieds sous terre.
Mais ça tourne, ça va me rendre dingue!
De son vivant, Maurice Ravel n'aura finalement que très brièvement profité du succès de son Boléro qu'il composa en 1928. Succès qui d'ailleurs l'exaspérait tant il considérait que son Boléro ne se résumait au fond qu'à une prouesse technique. En effet, seulement 5 ans après sa création, Ravel déclara les signes d'une maladie cérébrale incurable qui allait le condamner à un déclin rapide de ses capacités intellectuelles durant les 4 dernières années de sa vie. Il mourut le 28 décembre 1937 des suites d'une opération au cerveau. Dès le jour de la mort de Maurice Ravel, une toute autre histoire allait débuter. Une histoire aussi ahurissante qu'écœurante qui ne prend que partiellement fin avec l'entrée du Boléro dans le domaine public le 1er mai 2016. Partiellement car l'œuvre reste toujours protégée dans de nombreux pays, dont les États-Unis, et ce jusqu'en 2024. Mais aussi car de nombreux points d'ombre subsistent quant aux bénéficiaires des dits droits, dont le montant s'élèverait à pas moins de 46 millions d'euros entre 1970 et 2006. Alors, êtes-vous prêt à plonger dans cette sombre histoire aux nombreux personnages où escroquerie et mauvaise foi se côtoient ? Alors, accrochez-vous car c'est une vraie histoire à tiroir, et plutôt des tiroirs-caisses.
Et il m'a tout balancé, et je peux vous dire, c'est un sacré bazar, hein ? C'est pas joli, joli, et je peux pas tout dire.
Eh ben, moi je vais tout dire, et croyez-moi, c'est pas très beau, l'héros. Pour commencer, il faut savoir que Maurice Ravel, n'ayant pas eu de descendance, désigna son seul frère cadet, Édouard, comme unique héritier. Édouard, industriel à Saint-Jean-de-Luz, souhaite faire perdurer la mémoire de son aîné. Alors, en 1956, conformément aux souhaits de Maurice, il crée une fondation, Maurice Ravel, pour transformer la maison du musicien en Île-de-France en musée. En 1958, alors que l'on célèbre à Paris la mémoire du compositeur, son frère promet de donner 80% des droits d'auteur dont il a hérité à la ville de Paris. Mais quelques mois après, de retour à Saint-Jean-de-Luz, il se rétracte. La ville de Paris n'aura rien. Tout doit revenir à une certaine Jeanne Taverne.
Et qui est-elle ? D'où vient-elle ?
Pour comprendre qui est-elle, il faut revenir quelques années plus tôt. En 1954, Édouard Ravel et son épouse Angèle Bonnet sont victimes d'un accident de voiture. La femme d'Édouard a besoin de soins. Et le couple fait appel à une masseuse, également fabricante de boutons et vendeuse de canaries. Elle s'appelle Jeanne Taverne. À la mort d'Angèle qui succombe à ses blessures, Jeanne s'installe dans la maison de Saint-Jean-de-Luz avec son mari Alexandre qui devient alors le chauffeur d'Édouard. Petit à petit, l'entourage du couple Ravel s'inquiète pour Édouard qui se coupe de plus en plus de ses amis et le soupçonne d'être sous l'emprise du couple des Tavernes. D'autant que le médecin de la famille Ravel a de bonnes raisons de penser qu'Édouard est sous l'emprise de la morphine. Ces soupçons ne font que se confirmer au moment où Édouard cède sa maison à Jeanne sans passer chez le notaire et quand 2 ans plus tard, il la désigne comme étant sa légataire universelle, seulement quelques mois après avoir signé une promesse de don à la ville de Paris. Et voilà que quelques années plus tard, les Tavernes décident de divorcer. Pourtant, le couple ne semble pas être en froid, la raison de cette séparation semble être tout autre. Et oui, car un mariage semble se profiler entre Jeanne Taverne et, je vous donne en mille, Édouard Ravel. Mais le frère du compositeur meurt en avril, seulement 2 mois après le divorce. Et il ne faudra pas attendre beaucoup plus de temps pour voir les Tavernes se remarier à nouveau. Après la mort d'Édouard, apparaissent comme par enchantement des petits cousins paternels de Maurice Ravel. Et ils sont bien décidés à récupérer leurs droits. C'est ainsi que commencent 10 années de procès en captation d'héritage, 10 années durant lesquelles Alexandre Taverne, devenu veuf au cours de la procédure, gagnera 3 fois. En 1970, Alexandre Taverne gagne définitivement le procès en captation d'héritage et récupère 36 millions de francs, 5 millions et demi d'euros. Cette somme correspond aux droits qui ont été bloqués par la SACEM pendant toute la durée de la procédure. Et cette même année, un personnage important sort de l'ombre, un certain Jean-Jacques Lemoine.
Qui c'est celui-là ?
C'est lui, monsieur le directeur ! C'est lui !
Tout juste, car Jean-Jacques Lemoine est l'ancien directeur juridique de la SACEM. Depuis son poste, il a pu voir cette somme grossir année après année. En 1969, il part en retraite anticipée pour redevenir l'avocat d'un seul client. Eh bien, je vous le donne en mille, c'est Alexandre Taverne qu'il va conseiller pendant la dernière année du procès en captation d'héritage. À partir de ce moment, c'est Jean-Jacques Lemoine qui tire les ficelles. Et en bon spécialiste des droits d'auteur et montages fiscaux juteux, Lemoine parvient à négocier avec les éditions Durand, jusque-là propriétaire majoritaire des droits d'édition du Boléro, pour se partager les droits à 50-50. C'est à partir de ce moment-là, toujours sous la houlette de Jean-Jacques Lemoine, que le Boléro alimentera un consortium de sociétés enregistrées dans divers paradis fiscaux, davantage spécialisés dans l'optimisation fiscale que dans la création et la diffusion de musique.
Ça sent la fraude fiscale à plein nez, je m'en fous.
Depuis 2016, l'emblématique Boléro est tombé dans le domaine public pour son usage en France. Mais si l'on peut se réjouir aujourd'hui de pouvoir utiliser le Boléro librement en France, toute l'épopée qui entoure l'histoire des droits du Boléro ne semble pas vouloir cesser pour autant. Car preuve en est le procès qui s'est ouvert le 14 février 2024, dans lequel les ayants droit du scénographe et de la chorégraphe du Boléro réclament que ces derniers soient reconnus comme co-auteurs, ce qui ferait retourner le Boléro dans le domaine privé au moins jusqu'en 2039.
Oh non, mais c'est dingue cette histoire!
Pour conclure, sachez qu'on estime à 50 millions d'euros ce qu'a rapporté le Boléro en droit d'auteur depuis 1960. Et aujourd'hui, ces droits appartiennent à Evelyne Pan de Castel, qui est, tenez-vous bien, la fille du premier mariage de la seconde femme du mari de la masseuse du frère de Maurice Ravel.
Simplissimo, hein ?
Et à ce titre, elle continue à toucher de l'argent car il faudra attendre 2055 pour que l'intégralité des œuvres de Ravel entre dans le domaine public.
À présent, pour découvrir d'étonnantes reprises du Boléro dans de nombreux styles musicaux, veuillez patienter jusqu'à l'épisode numéro 3 de ce Versions originales spécial Boléro de Ravel.